Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. L'enlèvement de Barney et Betty Hill. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961, Barney et Betty Hill, un couple d'Américains, sont enlevés par des extraterrestres, selon leur déclaration recueillie par la suite. Avant l'incident, ils circulaient en voiture dans une zone rurale de l'État du New Hampshire, aux États-Unis. Ce cas, plus connu sous le nom de « enlèvement de Hill » ou « incident Zeta Reticuli », est devenu l'un des premiers récits d'enlèvement extraterrestre à susciter une attention considérable dans les médias. Véritable phénomène ufologique, stress lié à la guerre froide ou délire individuel. Nous allons essayer de voir si la vérité est ailleurs. Au préalable, il est important de préciser que le témoignage provient d'un couple parfaitement sain d'esprit et a priori équilibré. On ne leur connaît aucun désordre mental. Le couple Hill vit à Portsmouth, dans le New Hampshire. Barney Hill, âgé de 39 ans au moment des faits, travaille pour le service postal des États-Unis. De son côté, Betty Hill, 41 ans, est assistante sociale. Ils sont actifs dans la congrégation unitarienne locale, membre de la NAACP. Cette association a pour mission de défendre les droits des Afro-Américains. C'est un couple très engagé. Barney siège au conseil local de la Commission des droits civils des États-Unis. Nous sommes le 19 septembre 1961. Barney et Betty ont passé de formidables vacances aux chutes du Niagara et à Montréal. Ils sont sur le chemin du retour à bord de leur véhicule. Le trajet est long et épuisant. Ils ont déjà roulé pendant près de 5 heures. Il leur faudra encore 2 bonnes heures de route pour atteindre leur domicile. Vers 22h30, le couple dépasse la ville de Lancaster, dans le New Hampshire. La route nationale est déserte. Soudain, Betty remarque un point lumineux dans le ciel. Elle le désigne du doigt à Barney, qui ne s'inquiète pas plus que ça. Il suggère que ce point pourrait être une simple étoile filante. Mais en quelques secondes, la lumière change de cap, se déplaçant de manière très inhabituelle. Elle finit par grossir et devenir de plus en plus brillante. Intrigué, Barney arrête la voiture pour observer de plus près le phénomène. Betty sort du coffre une paire de jumelles que le couple avait emportées avec eux pour leurs vacances. Elle remarque un engin avec une forme inhabituelle et des lumières multicolores. Betty pense instinctivement à une soucoupe volante, un phénomène encore peu connu, mais déjà bien alimenté dans la littérature de l'époque. Son mari est un peu plus sceptique. Il pense que c'est un avion volant en direction de Montréal. Lorsqu'il s'aperçoit du changement brutal de trajectoire, il comprend que cet objet volant non identifié peut être tout sauf un avion. Finalement, le couple décide de remonter dans sa voiture et de poursuivre la route. Betty est un peu anxieuse. Sur le chemin, il continue à observer le phénomène. L'objet est de plus en plus visible à l'œil nu. Il finit par passer à une vitesse folle tout près de la voiture avant de survoler un restaurant et de disparaître derrière une colline. Betty a eu le temps d'en voir la forme. L'objet a une longueur d'environ 15 mètres. Les Hill continuent leur chemin, mais doivent s'arrêter net, au milieu de la route. L'objet vient de descendre rapidement vers leur véhicule. La forme est celle d'une soucoupe parfaitement plate. Elle se place en vol stationnaire au-dessus de la voiture du couple. Dans son témoignage, Betty se montre très précise. Elle évalue la distance à 20 ou 30 mètres. Barney se saisit des jumelles et descend de son véhicule. Il veut observer le phénomène de plus près. Il a pensé également à prendre son pistolet s'il devait se défendre contre des envahisseurs venus d'ailleurs. À travers ses jumelles, Barney distingue entre 8 et 11 silhouettes humanoïdes, le fixant depuis les fenêtres de l'engin. Les silhouettes, à l'exception d'une seule, se déplacent ensuite vers un panneau situé sur la paroi arrière du couloir qui entoure la partie avant de l'engin. La silhouette restante continue de regarder Barney. Elle lui envoie un message par télépathie, lui disant qu'il doit rester où il est et continuer à fixer du regard les fenêtres du vaisseau. Puis, Quelques secondes après, des lumières rouges sur ce qui semble être des ailerons de chauve-souris commencent à pivoter sur les côtés, tandis qu'une longue structure descend de la base de l'engin. Le vaisseau s'ouvre. Le couple peut mieux distinguer les formes. Ce sont des créatures humanoïdes, non humaines, vêtues d'uniformes noirs brillants et de casquettes. Barney ne veut pas en voir plus. Il se précipite dans la voiture, résolu à mettre une grande distance entre eux et le vaisseau. Ils sont surpris par une série de bips et de bourdonnements résonnants autour d'eux. Ces bruits sont accompagnés d'une sensation de picotement dans tout leur corps. Ils perdent peu à peu le souvenir de ce qui se passe autour d'eux. Lorsqu'ils reprennent conscience, ils constatent qu'ils sont toujours sur la route, mais ils ont parcouru près de 35 miles sans se rappeler de quoi que ce soit. Ils remarquent que leurs deux montres se sont arrêtées, leurs vêtements sont déchirés et froissés. Leur véhicule a également subi des dégâts. Ils arrivent à leur domicile à l'aube, très perturbés par ce qui leur est arrivé. Ils vont mettre plusieurs jours à se souvenir de ces événements, à travers des rêves très réalistes faits par Betty. Ils constatent un changement radical de comportement, sans pouvoir l'expliquer. Betty insiste pour que leur bagage soit conservé près de la porte arrière, plutôt que dans la partie principale de la maison. Barney ressent le besoin d'inspecter ses parties génitales dans la salle de bain, sans rien remarquer d'anormal. Le couple prend également de longues douches pour éliminer toute éventuelle contamination. Betty et Barney finissent par faire un dessin de leurs observations. Une nuit, Betty se réveille et range dans son placard les chaussures et les vêtements qu'elle portait pendant le trajet. Elle constate alors que sa robe est déchirée au niveau de l'ourlet, de la fermeture éclair et de la doublure. Plus tard, elle découvre une poudre rosâtre sur la robe. Elle pense à la jeter, puis se résout à la garder en guise de preuve. Le couple réunit également d'autres éléments, comme la courroie en cuir des jumelles déchirées. Le coffre de leur voiture présente des cercles concentriques brillants. En réalisant une expérience avec une boussole, le couple remarque que lorsque celle-ci est approchée des cercles brillants, l'aiguille de la boussole s'affole. Cependant, dès qu'il l'éloigne de quelques centimètres des points brillants, l'aiguille reprend sa position normale. Nous sommes en octobre 1961. Betty entame une série de rêves très réalistes qui vont durer 5 nuits consécutives. Ses songes sont si marquants qu'elle se souvient de tous les détails plusieurs semaines après. En novembre, elle commence à prendre des notes. Elle raconte notamment que dans l'un de ses rêves, Barney se retrouve face à un barrage routier, entouré d'hommes. Betty perd connaissance et tente désespérément de reprendre ses esprits. Elle raconte qu'elle se trouve ensuite forcée par deux hommes à marcher dans une forêt la nuit. Ces hommes mesurent entre 1m50 et 1m70, portent des uniformes bleus assortis de casquettes militaires. Ils paraissent presque humains, avec des cheveux noirs, des yeux sombres, un nez proéminent et des lèvres bleuâtres. Leur peau est grisâtre. Elle voit Barney marcher derrière elle. Lorsqu'elle essaye de communiquer avec lui, il ne répond pas. Elle remarque qu'il est dans un état de transe. Le couple est ensuite conduit à leur voiture. L'un des humanoïdes leur demande d'attendre que le vaisseau spatial ait décollé avant de repartir. Le 21 octobre, soit un mois après leur supposé enlèvement, le couple Hill rapporte les faits à Walter Webb, un astronome de Boston et membre du NICAP, le Comité National d'Enquête sur les Phénomènes Aériens. Ce comité est composé d'un groupe de chercheurs en ufologie. L'entretien entre l'astronome et les Hill dure plus de 6 heures. Des longues heures durant lesquelles ils ont pu exposer tous les détails, partager leurs ressentis après l'événement, les changements psychologiques qui se sont opérés. Barney Hill confie son blocage mental qui a perduré pendant plusieurs semaines, l'empêchant de se souvenir de certains détails du phénomène avec précision. Walter N. Webb est convaincu que les Hill disent la vérité. Plus tard, le couple est soumis à des séances d'hypnose. Betty réitère les propos tenus lors de son entretien, issus des rêves qu'elle avait faits. Cependant, son récit présente quelques différences. Betty a décrit une technologie à bord de l'engin et une apparence physique différente pour les êtres de petite taille. L'ordre des événements de l'enlèvement n'était pas le même que dans ses rêves antérieurs. De son côté, Barney décrit ces êtres comme étant généralement similaires aux souvenirs hypnotiques de Betty. Il a trouvé leur regard terrifiant, évoquant des yeux qui semblaient pénétrer son esprit et la sensation d'être observé de très près. Barney a indiqué qu'il n'a pas compris la langue dans laquelle ces êtres parlaient, la décrivant comme une langue marmonnée. Il a également rapporté des échanges qu'il a perçus comme un transfert de pensée, qu'il n'a pas identifié à l'époque comme étant de la télépathie, car il ne connaissait pas ce terme. Suite à cette séance, les experts ont jugé crédible le récit du couple Hill. Après l'incident, le couple tente de reprendre une vie normale. Ils reparlent de leur rencontre avec des proches et quelques journalistes, sans avoir l'intention que leur histoire fasse le tour du monde. Mais le 25 octobre 1965, le journal Boston Traveler publie un article sur l'événement. Celui-ci comprend un rapport d'un enregistrement audio issu d'une conférence donnée par Barney et Betty 2 ans auparavant. L'article détaille également des notes d'entretien confidentiel avec des enquêteurs sur les ovnis. L'article a été repris par United Press International, une agence de presse opérant au niveau mondial. Dès le lendemain, l'histoire des Hill est catapultée sous les feux de la rampe médiatique dans le monde entier. En 1966, l'écrivain John J. Fuller publie « The Interrupt Journey », le voyage interrompu, dans lequel il retrace toute l'histoire. Sur l'une des pages, on peut y voir une reproduction d'une carte des étoiles. Cette carte s'était retrouvée parmi les dessins de Betty Hill. Elle était apparue régulièrement dans ses rêves. En 1968, Marjorie Fish, une enseignante d'une école primaire et astronome amateur résidant à Oak Harbor dans l'Ohio, découvre ce croquis énigmatique. Convaincue qu'une des 15 étoiles de la carte représente le Soleil, Marjorie Fish se lance dans la construction minutieuse d'un modèle tridimensionnel d'étoiles similaire au Soleil. Pour cela, elle utilise des fils et des perles, se basant sur les données des distances stellaires du catalogue d'étoiles de Gliese, datant de 1969. Tout cela dans le but unique de découvrir une constellation proche de la Terre, pouvant abriter la vie extraterrestre. Des centaines d'heures de recherche plus tard, Marjorie Fish découvre que le système d'étoiles doubles de Zeta Reticuli, situé à environ 39 années-lumière de la Terre, pourrait correspondre à la carte dessinée par Betty. La découverte est pertinente. Elle convainc l'astronome Walter Webb. Celui-ci décide de transmettre la carte et l'analyse à Terence Dickinson, rédacteur en chef du magazine Astronomy. La carte stellaire définie par l'astronome amatrice fait débat. Pour de nombreux experts, l'analyse n'est pas crédible. Toutefois, un statisticien du nom de David Saunders choisit de défendre l'idée qu'une correspondance entre 16 étoiles spécifiques, parmi les 1000 étoiles les plus proches du Soleil, représentait une probabilité de 1000 contre 1. Un résultat minime, mais pas impossible. Dans le début des années 90, la mission européenne Hipparchos, ayant pour objectif de mesurer avec une grande précision les distances de plus de 100 000 étoiles autour du Soleil, a remis en question la carte des étoiles de Marjorie Fish. En pratique, certaines étoiles sont bien plus éloignées que ce qui était estimé. Au cours des années suivantes, d'autres détracteurs ont avancé de nouveaux arguments pour décrédibiliser l'enlèvement des Hill. McDonald, un habitant de la région, pense que leur expérience découle d'une confusion avec une balise d'avertissement pour avion sur Cannon Mountain, perçue comme un ovni. Les lumières de la balise correspondraient au moment d'apparition et de disparition décrit par les Hill. McDonald attribue le reste de l'événement au stress, à la fatigue et à des souvenirs fabriqués sous hypnose. Barney Hill est décédé en 1969. Sa femme Betty a cherché à préserver la réputation de son mari en crédibilisant un maximum ce qui leur est arrivé. Lors de la conférence nationale sur les ovnis à New York en 1980, Betty Hill a présenté plus de 200 diapositives d'ovnis qu'elle aurait prises. Son exposé n'a pas convaincu le public. En 1995, elle autopublie « A Common Sense Approach to UFOs », une approche de bon sens des ovnis. Ce livre est une compilation de récits fantaisistes, tels que des descriptions d'escadrons d'ovnis et d'un camion en lévitation sur une autoroute. Dans son article de 1990, Entirely Unpredisposed, totalement imprévisible, Martin Kottmeyer avance l'idée que les souvenirs de Barney Hill, révélés pendant l'hypnose, aurait pu être influencé par un épisode de la série télévisée de science-fiction The Outer Limits, appelé The Bellarrow Shield. Diffusé environ 2 semaines avant la première séance d'hypnose de Barney, cet épisode met en scène un extraterrestre aux grands yeux. L'auteur remarque une forte ressemblance entre les croquis de Barney Hill, représentant le visage des visiteurs, et le maquillage utilisé pour créer la créature dans l'épisode de la série télévisée. Betty Hill est décédée en 2004, sans essayer d'argumenter plus longuement sur ce qui est arrivé à elle et son mari la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Malgré des éléments troublants et des incohérences dans leur récit, il est difficile de porter un jugement définitif sur cette affaire. Néanmoins, leur histoire a grandement contribué au récit d'enlèvement extraterrestre, représentant l'un des cas les plus complets et influents dans ce domaine. Si bien qu'il a été le point de départ de nombreuses fictions. Aujourd'hui encore, l'aventure vécue par le couple Hill laisse perplexe de nombreuses personnes, partagées entre scepticisme et incrédulité. Le mystère reste entier.